Et l'invité de Léa Salamé ce matin est réalisateur et acteur.
Bonjour Xavier Dolan.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous venez d'atterrir de Montréal. Content d'être à Paris?
Oui, content. C'est mon premier voyage depuis un an. Ça faisait longtemps que j'étais pas venu à Paris. Je retrouve les choses que j'aimais, les adresses, les lieux, les gens. Tout est en place.
Alors, on vous connaît, on vous aime, Xavier Dolan, pour vos films comme réalisateur, Mommy, Juste la fin du monde, Lawrence Anyways. Mais ce matin, vous n'êtes pas là comme réalisateur, mais comme acteur. Un acteur nommé pour le César du meilleur second rôle pour votre prestation dans le très beau film de Xavier Giannoli, Illusion perdue. Vous en avez reçu des Césars, des prix à Cannes, des prix dans d'autres festivals comme réalisateur. Là, c'est la première fois que vous êtes nommé comme acteur.
Ouais.
Ça vous fait plaisir ?
Énormément, c'est une validation. J'ai toujours voulu jouer. C'est pas moi qui ai choisi de me donner que des rôles dans mes... des rôles que dans mes films. C'est arrivé comme ça, puis je pense que les gens me perçoivent peut-être comme un réalisateur davantage, mais surtout peut-être aussi comme un acteur plus limité ou plus... je sais pas. Mais Xavier m'a fait confiance, et puis d'abord, premièrement, ça a été une expérience exceptionnelle avec lui.
Il n'y avait pas de compétition, parce que vous parlez souvent des compétitions entre réalisateurs.
Non, ben... Moi, j'ai jamais vraiment senti de compétition avec aucun réalisateur ni réalisatrice, mais j'ai senti que des cinéastes me mettaient un peu à l'écart dans des conversations, dans des... J'ai senti qu'il y avait une
jalousie.
Non, mais une sorte de d'élitisme ou de, et que j'en faisais pas partie, que j'étais un peu le dindon de la farce, ou parce que j'étais une sensation, ou après j'ai tué ma mère en 2009. Je crois que beaucoup pensaient que c'était juste un phénomène cannois, comme Cannes sait si bien orchestrer ces espèces de d'événements. Cannes, c'est un événement, ils aiment les événements, ils aiment ces histoires, ces contes de fées. Et puis j'ai senti beaucoup de mépris, disons, au début. Et puis c'est rare, c'est vrai, que des réalisateurs m'ont tendu la main, mais avec Xavier, au contraire, non seulement d'abord sa confiance de me demander de faire l'acteur pour lui, mais aussi sa générosité, sa curiosité de tous les instants, sa façon de vouloir comme ça partager avec moi des extrêmes, dire, regarde ce que j'ai tourné la semaine dernière, de chercher aussi. Et puis moi, j'étais ébloui par son talent, par sa maîtrise. C'est très très impressionnant pour moi de voir la créativité de Xavier, mais aussi juste ses forces intellectuelles, mais culturelles aussi.
Ce film, justement, Illusion perdue, formidable adaptation du chef-d'œuvre de Balzac, qui restitue le Paris du 19e siècle avec une lumière, avec des décors magnifiques. Il explose les nominations au César, il y en a 15.
J'imagine, ouais. Mais c'est complètement mérité.
Succès critique, succès en salle aussi, puisqu'il atteint le million d'entrées dans un moment où le cinéma va pas bien. Comment vous expliquez l'aura qu'il y a autour de ce film ?
Écoute, moi, quand je l'ai découvert chez moi, j'étais époustouflé, en fait. J'étais, c'est l'ADN de ces grands films des liaisons dangereuses à Amadeus, à grand déploiement, qui font plaisir à voir. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose qui, je pense, rassemble tous les goûts. Tout à coup, on aime les films d'action, on aime les romances. Ce film collectionne et rassemble tous les genres, toutes les étiquettes à la fois. Son souffle nous porte, les décors, les costumes. C'est un festin pour les yeux. Moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, je peux pas croire que je fais partie de ce film.
Oui, mais c'est aussi dû à la modernité folle de Balzac, au fond. Parce que quand il écrit les vicissitudes de l'âme humaine, quand il écrit la cruauté du monde parisien, il l'écrit il y a 200 ans, mais ça pourrait se passer aujourd'hui, en fait.
Ben oui, mais c'est pas, je pense pas que ce soit moderne de la part de Balzac de l'avoir écrit, parce que il écrit avec authenticité les manigances qui se déploient sous ses yeux. Ce qui est moderne, je pense, c'est l'œil de Xavier, le regard qu'il pose là-dessus, et la façon, sans appui ou sans trop d'artifice, qu'il a de montrer ce parallélisme-là, qui finalement nous démontre que les noms ont changé, les lieux ont changé, mais les intentions, les rouages, les systèmes demeurent les mêmes.
Et l'âme humaine demeure la même.
L'âme, évidemment, humaine, oui, demeure la même.
Et l'histoire raconte l'ascension et la chute d'un jeune homme de province à Paris, Lucien de Rubempré, qui voit ses rêves d'artiste se heurter à la cruauté de cette vie parisienne. Vous vous êtes reconnu dans la trajectoire de ce jeune poète qui connaît un succès fulgurant, puis fait l'expérience du désenchantement. Est-ce que, comme Lucien, vous avez perdu vos illusions ?
J'y ai pas vraiment pensé, en fait, en tournant. On m'a fait ce
rapprochement.
Ce rapprochement qui, oui, évidemment, est légitime, mais moi, je campais le personnage de Raoul Nathan et...
Oui, vous êtes un écrivain qui a déjà réussi.
Qui a du succès et puis qui, en même temps, est une figure bienveillante, une des rares, une des seules, en fait, j'ai envie de dire.
Mais vous voyez pas un lien entre vous et... Et Lucien de Rubempré, de ce gamin qui voulait bouffer Paris, qui l'a eu et qui a un regard distancié.
Oui, mais se fait bouffer lui à son tour.
Et vous, non?
Et moi, non, on ne bouffe pas. Non, mais c'est parce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que je me sens pas comme ça. Je sens pas qu'on me... Je me suis fait attaquer, je me suis fait critiquer, mais qui s'y frotte typé, qu'on fait des films, les gens les critiquent, les gens les aiment ou les aiment pas. Ça a été beaucoup plus dur à une certaine époque pour moi. Il y a eu des critiques qui ont été parfois constructives, parfois choquantes, mais souvent aussi violentes, parfois gratuitement. Mais en même temps, je pense que c'est l'artiste qui gagne, parce que on peut le rouer de coups, on peut le critiquer avec hargne, avec mais il revient avec un projet, il renaît de ses cendres, et puis c'est ça aussi le privilège du créateur, c'est de pouvoir enterrer les échecs et de vouloir renaître à travers d'autres créations.
Le film a tout de même une vision très sombre de la réussite, forcément synonyme de corruption, de narcissisme, d'argent.
Ouais.
Vous voyez ça comme ça aussi, vous, la réussite ?
Je vois, en tout cas, oui, évidemment, je vois, c'est surtout avec les réseaux sociaux, j'ai envie de dire, tout le monde se met un peu en scène, et puis les commandites, les sponsors, les posts, les influenceurs, je pense qu'il y a dans le succès quelque chose de très aléatoire maintenant, d'assez artificiel. Tout le monde peut avoir du succès, tout le monde peut être connu. Il y a dans les illusions perdues, à un moment, Gérard Depardieu dit à Lucien, il lui dit « Mais pourquoi est-ce que je voudrais vous publier ? Vous êtes célèbre ? Vous avez un ennemi célèbre ? Trouvez-vous un ennemi célèbre ou une maîtresse célèbre pour qu'on ait envie de vous lire ou qu'on ait envie d'entendre parler de vous ?» Comme quoi, quand on n'est personne, on n'a rien à dire et on n'intéresse personne. Et ça, je trouve qu'il y a quelque chose de, encore une fois, ça demeure moderne, ça n'a pas vieilli. Mais est-ce que le succès doit toujours s'accompagner de perversion, de narcissisme, de manigance, je pense qu'on peut se faire une carrière puis une vie pour soi, ça prend du temps. Mais à un moment, ce qui est bien, c'est qu'on arrive à un stade où on décide d'être maître de soi.
Et vous êtes arrivé à ce stade-là, aujourd'hui à 32
ans. J'y arrive lentement, mais en décidant que on ne fait plus certaines choses, qu'on ne dit plus certaines choses, qu'on ne pense pas forcément telle ou telle chose, qu'on n'a pas d'a priori, qu'on ne s'interdit pas certains plaisirs juste par intellectualisme ou parce que ce n'est pas assez, entre guillemets, raffiné ou, bon, ça fait longtemps que je le fais en même temps. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, je sens que j'y arrive lentement, à ne pas exiger aussi des choses de soi, à ne pas vivre aussi qu'à travers le regard des autres. C'est difficile parce qu'on se met en scène, puis on se filme, et puis on met notre vie aussi en scène, puis donc on s'attend à ce que les gens nous regardent, nous jugent. Mais il faut arriver à faire les choses,
avec distance.
Ah ouais, avec distance. La pandémie a beaucoup aidé ça pour moi.
Un mot sur le casting du film. Ahurissant, Vincent Lacoste, Benjamin Voisin, Cécile de France, Jeanne Balibar et puis Gérard Depardieu. C'est comment de travailler avec Gérard Depardieu, Xavier Dolan ? Vous avez dit dans une interview au Journal de Montréal, Depardieu c'est un homme excessivement lettré mais aussi excessivement salace.
Ben, c'est-à-dire qu'il peut passer d'une blague de fesses tout à coup à une référence de Lamartine. Ce que moi j'apprécie particulièrement comme
contraste.
Vous
aimez les deux ?
J'adore les fesses et j'adore Lamartine. Non mais... J'aime les gens qui possèdent ces contrastes, qui possèdent ce recul, cette façon de pouvoir rire d'eux-mêmes, de pouvoir rire des autres. Et en même temps, c'est un dictionnaire. J'ai rarement vu... Ben, avec Xavier, ils peuvent me perdre en l'espace de deux phrases quand ils se mettent comme ça.
Quand Jean-Eli et Depardieu se mettent à parler, vous êtes largué.
Non, mais il faut retourner aux études pour suivre la conversation. C'est plaisant, mais c'est un flot sans fin de références, de connaissances, de richesses, d'érudition. Puis ça fait du bien, mais en même temps, donc c'est agréable aussi de pouvoir après directement derrière faire une grosse blague un peu grivoise, et puis moi ça me plaît, puis j'ai aimé l'acteur aussi, c'est une puissance, une autorité dans le regard, pas besoin de faire grand chose, pas besoin de déplacer trop d'air, c'est une présence.
Un mot avant de vous quitter, Xavier Dolan, on peut pas vous quitter sans vous parler de Gaspard Ulliel, qui était magnifique dans votre film « Juste la fin du monde », qui est décédé le 19 janvier dernier dans un accident. Vous avez eu des mots très très beaux sur Instagram. « C'est invraisemblable, insensé et tellement douloureux de même penser écrire ces mots. Je ne peux rien dire d'autre que je suis vidée, je suis sonnée par ton départ. » Vous penserez à lui, au César ?
Ouais, mais je pense à lui tout le temps. Je pense à lui constamment, en fait, et j'ai de la difficulté à... Il est très tôt, ça va prendre énormément de temps avant d'accepter ce départ-là. C'est inconcevable. Et puis, je rêve souvent à lui. Je pense toujours à lui. Je pense à sa famille aussi. Je pense à son fils. Je pense à son talent, à sa beauté, Et puis j'en parlerai, je vais lui rendre hommage en fait.
Au César ?
Oui, non, c'était prévu, c'était...
C'est pour ça en fait que vous êtes venu à Paris, au-delà de votre nomination.
Honnêtement, sans nomination, je serais venu, la nomination est une validation, je veux pas dire superfétatoire parce que je l'apprécie et puis je veux pas dire qu'elle est inutile pour moi, mais qu'elle n'est pas la motivation première de mon déplacement ici, je voulais absolument... dire des choses sur Gaspard, pas que j'ai moi l'autorité de le faire, mais j'avais le désir de le faire. Je l'ai connu professionnellement, je l'ai connu intimement aussi. C'est ça. Bon, il faudrait que je me contrôle un petit peu plus que ça quand je parlerai de lui, mais j'avais besoin, je pense, de dire personnellement à quel point je l'aimais et pourquoi.
Merci beaucoup, Xavier Dolan. Merci. Vous êtes donc nommé au César, mais vous êtes venu surtout à Paris pour rendre hommage à Gaspard Ulliel. Et on pense à lui. Et merci à vous d'être venu nous parler ce matin sur Inter. Merci.
Merci. France Inter.